des mots pour le dire. Dominique Demichel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. La séparation, suite logique de notre précédente série d'émissions consacrée à la rencontre. La séparation fait partie de nos vies, de notre naissance à notre mort. Notre existence est faite de multiples séparations, certaines douloureuses, d'autres nécessaires. Ce sont tous ces aspects que nous allons explorer en compagnie du docteur Dominique Demichel.
5 mois après la fondation de la République fédérale allemande, la zone de l'Allemagne orientale contrôlée par les soviétiques devient la République démocratique allemande. Il y a désormais 2 Allemagnes, comme il y a 2 Berlins. Une ligne frontière tracée sur le sol sépare les 2 villes. Mais ce n'est pas suffisant pour empêcher la fuite de la population de l'Allemagne de l'Est. Pour stopper l'hémorragie, les autorités de RDA multiplient les fermetures des rues. Ils interrompent les liaisons des tramways et des bus. Seul le métro continue de relier l'Est à l'Ouest. Les communications téléphoniques sont coupées. Et les 81 postes d'accès à Berlin-Ouest sont étroitement surveillés. En 1953, les mesures se renforcent encore davantage après le soulèvement des ouvriers de Berlin-Est qui exigent des réformes démocratiques et protestent contre des normes de travail trop élevées. La révolte qui s'étend à toute l'Allemagne de l'Est est matée par les chars soviétiques, appelés à l'aide par le gouvernement communiste de Walter Ulbricht. Staline, 73 ans, est mort depuis quelques mois. Khrouchtchev, qui lui succède, se veut plus rassurant, plus tolérant, plus démocrate. Il déstalinise. Mais c'est tout de même lui qui donne l'ordre d'ériger un mur à Berlin. Le 12 août 1961, vers 16h, les premières pierres du mur sont scellées. Les Berlinois de l'Est se précipitent vers les points de passage, bousculant les soldats, passant de force, avant que la porte ne se referme. En une seule journée, 4000 personnes fuient vers l'Ouest. Parmi elles, Konrad Schumann, le premier garde-frontière à sauter la haie de Barbelais. Le lendemain, 25 000 miliciens, appuyés par les Vaupeaux, prennent position le long de la ligne frontière. Un homme armé tous les 2 mètres. On déroule des barbelés, les chaussées sont dépavées, le mur s'élève. Policiers et membres des groupes de combat de l'armée de RDA expulsent les habitants des logements situés à proximité de la ligne de démarcation. Dans d'ultimes tentatives de fuite, les gens sautent par les fenêtres. Le 19 août, Rudolf Urban s'écrase au sol de la Bernauer Straße. C'est la première victime. Toutes les ouvertures permettant de fuir sont désormais murées. En Occident, les protestations sont faibles. Kennedy lui-même se déclare rassuré. Ça prouve, dit-il, que Khrouchtchev n'a pas l'intention de s'emparer de Berlin s'il construit un mur. 2 ans plus tard, le président américain en visite à Berlin-Ouest lancera son fameux « Ich bin ein Berliner » pour témoigner de son indignation devant le mur de la honte. Mais il faudra attendre
12 août 1900
avant que le mur ne s'effondre.
12 août 1961, les premières pierres du mur de Berlin sont érigées. Le mur de Berlin, symbole même de la séparation d'une ville et d'un peuple. Docteur Dominique Demichel, un mur, il n'y a rien de mieux pour séparer et pour commencer notre série d'émissions sur la séparation.
Oui. Alors, juste avant de commencer l'émission, on discutait un tout petit peu et on se posait un petit peu la question de savoir si, au fond, presque tout début, c'est tout commencement, c'était pas au fond déjà une séparation. Hein.
Oui, parce qu'il faut, on va revenir bien sûr aux origines du mot séparation,
ouais.
Et peut-être même aux origines du monde, qui est déjà une séparation, comme on peut le lire dans la Genèse ou alors dans les mythes anciens.
Voilà, si bien, dans la Genèse, je suppose que nos auditeurs connaissent bien ça, hein, il y a très très souvent, on pourrait dire chaque jour, en tout cas pendant les 6 premiers jours, il y a pratiquement toujours une histoire de séparation, hein, du jour et de la nuit par exemple, et puis dans la création des différents êtres aussi, il y a cette idée de séparation. Si on remonte un petit peu plus loin, c'est-à-dire si on remonte par exemple à Hésiode, hein, qui a écrit sa première Théogonie, c'est-à-dire le premier grand récit qui raconte un petit peu les origines, je pense que vos auditeurs vont se rappeler un tout petit peu des dieux, hein, où il y a plusieurs, il y a les pré-olympiens, puis ensuite il y a les olympiens avec Zeus. Mais si on remonte un petit peu plus haut, on se rappelle qu'il y a d'abord deux grands dieux primitifs qui sont un dieu et une déesse, Ouranos et Gaïa. Et dans ce temps-là, Ouranos et Gaïa, ils sont tout le temps sous la couette et en fond, ils font des gosses tout le temps. Et Ouranos, il n'a pas du tout envie qu'il y ait d'avoir des enfants parce que il a quelques souvenirs un petit peu difficiles et il a un petit peu peur de perdre sa place. Voilà. Donc il est Ouranos et Gaïa sont complètement collés l'un à l'autre. On pourrait dire l'espace n'existe pas. Et au fur et à mesure que des enfants naissent, Gaïa les garde dans son ventre. Et puis elle en a un petit peu marre comme ça et elle est prise à la fois de beaucoup d'affection vis-à-vis d'Ouranos, qu'elle a d'ailleurs probablement créé toute seule à un certain moment, ou peut-être avec Eros, mais pas le Eros qu'on connaît, un petit Eros antérieur. Et elle a tous ses enfants dans son ventre et elle dit, bon, il n'y en a pas un là-dedans qui peut faire quelque chose. Et puis le petit dernier qui s'appelle Chronos, hein, Chronos ça s'écrit sans H, hein, ça n'a rien à voir avec le Chronos du temps qu'on connaît, c'est Chronos. Chronos lui dit, bah oui, moi je veux bien faire quelque chose. Et Gaïa lui fabrique une sorte de grande faucille, une grande serpe. Elle invente la métallurgie à ce moment-là, on pourrait dire. Et Chronos, à un certain moment, va aller couper les génitoires de son père. Il le castre, donc, on pourrait dire. Et Ouranos hurle de douleur, bien évidemment. Et à ce moment-là, il se sépare. Il se sépare de Gaïa et, dans une certaine mesure, cette séparation ouvre et l'espace et le temps. Elle ouvre l'espace puisqu'au fond, la Terre devient autonome, on pourrait dire. Elle est plus collée à Ouranos. Et puis, Ouranos, le dieu du ciel, eh ben, il prend sa place, celle que nous connaissons tous, hein, le ciel ou les cieux, ou les ciels, comme on peut dire aussi. Et puis, entre les deux, il y a la vie qui apparaît. Donc c'est donc la première apparition de l'espace. Et en même temps, on pourrait dire que c'est le temps qui se fait, puisque tant que les enfants de Gaïa restaient dans son ventre, c'est comme s'il n'y avait pas de filiation, c'est comme s'il n'y avait pas d'histoire, c'est comme s'il n'y avait pas des parents, des enfants, des petits-enfants ou des arrière-grands-parents. Donc vous voyez, dans Hésiode, donc 6 siècles avant Jésus-Christ, si je ne me trompe pas, commence à écrire le début du monde comme une forme de séparation et où il associe la création de l'espace et la création du temps à une séparation.
Oui, donc on voit bien que la séparation est à l'origine de beaucoup de choses. On le verra
Oui.
plus tard au cours de cette série par rapport à la maternité, par rapport
Oui.
aux cellules, à la
Oui.
biologie.
Oui.
Avant cela, pour poser les bases de nos émissions, la séparation en Occident, on sait faire. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une culture qui aime bien définir, poser des étiquettes et ranger les choses dans des petites cases, et ce, depuis l'Antiquité.
Oui, je crois qu'on pourrait revenir sur le mot de séparation. On sait un petit peu tout ce que c'est que la séparation, mais il faut rappeler que ça désigne le fait de mettre à part une partie d'un tout, ou en tout cas de cliver, de mettre à distance sur le plan géographique ou sur le plan temporel,
Voire d'opposer.
voire d'opposer, voilà, tout à fait, deux entités qui avant n'étaient pas séparées, justement. Donc on isole quelque chose, que ce soit un objet, un animal, un être humain, ou alors on isole quelque chose à l'intérieur de soi-même, c'est mis de côté par rapport à un tiers, c'est-à-dire dans une séparation, on est obligatoirement deux, hein. Voilà, avant, il y avait plutôt un, et puis ensuite, il y a un deux. Mais ce mot de séparation peut aussi désigner un acte, on parle d'un acte séparateur, d'un fait séparateur, ou on peut parler aussi d'un souvenir qui va revenir et dont on sent bien qu'il vient poser quelque chose qui va avoir avec la séparation. Et puis il y a une histoire, et l'exemple que vous avez mis en introduction, là, montre bien combien ici le mur de Berlin était à la fois une séparation géographique, hein, puisqu'on va mettre la ville de Berlin-Ouest, en gros, en quelque sorte, entourée de quelque chose, d'un mur, et qui ne va être relié à l'Occident, on va dire, que par cette autoroute là qui rejoignait l'Allemagne de l'Ouest. Mais c'est aussi un temps d'histoire, hein, puisque on voit bien avec tout ce qui va se passer après combien ici c'est presque, enfin, le mur c'est un élément d'histoire plus que d'un élément de géographie.
On voit tout de suite la dualité, séparations qui sont positives, puis des séparations qui sont douloureuses, voire négatives.
Oui, je crois que cette dualité, c'est bien important que vous le redisiez. C'est pour ça que je trouve que c'est bien juste que vous ayez rappelé que dans séparation, il y a aussi l'idée d'opposition. Notre monde, il est duel. Hein, il est duel peut-être dans ce rapport à la naissance du monde. Hein, les physiciens, les cosmologistes nous disent aussi que au moment du Big Bang, hein, eh bien, il y a eu quelque chose de l'ordre d'un espace très très confus d'abord, dans lequel la lumière ne circulait pas parce que c'était trop dense. Et puis à un certain moment, la lumière est apparue. Il y a eu une circulation. Et puis il y a eu l'objet, le vide, et il y a eu la lumière qui passait. Donc ce côté binaire, on le voit dans le chaud et le froid, dans le fait d'inspirer, d'expirer, dans le haut, le bas, le dehors, le dedans, etc. Mais on le voit aussi sur le plan intérieur et sur le plan émotionnel, avec la palette des sentiments, de l'amour et de la haine, du malheur, du bonheur, du corps, de l'esprit, enfin tous ces espaces-là qui sont des espaces séparés. Et en même temps qu'on entend la séparation, on entend une antériorité ontologique de non-séparation avant, et on entend probablement un désir et d'union de nouveau ou de confrontation. Donc on sent bien que c'est pas juste deux éléments séparés qui ensuite n'ont plus rien à faire, mais c'est deux éléments séparés toujours reliés. Et puis là, j'ai pas assez de compétences pour vous expliquer tout ça, mais on sait maintenant, par exemple, que deux petites particules qui ont été corrélées à un certain moment gardent l'information de leur corrélation. C'est l'expérience d'Espet qui a été faite à Gif-sur-Yvette, là, et qui montre que même si elles sont très très éloignées à une grande distance, elles communiquent presque de manière instantanée une information de l'un à l'autre, à une vitesse qui dépasse la vitesse de la lumière, comme si c'était quelque chose d'instantané. Donc vous voyez, cette notion de séparation, on sent qu'elle est inscrite dans notre expérience de vie, on aura l'occasion d'y revenir, mais aussi peut-être dans la physique quantique, dans quelque chose qui n'est pas la physique newtonienne, mais qui nous dit qu'il y a là une énigme qui peut-être nous dépasse, mais qui a l'air fondamentale.
Alors, pour revenir dans notre société, la séparation, elle est nécessaire en politique. C'est ce qui gouverne aussi notre monde. En France, la séparation de l'Église et de l'État, c'était un moment très, très important qui a marqué les esprits.
Oui, oui, oui.
La séparation des pouvoirs.
Oui, tout à fait. Ça, c'est tout à fait essentiel. On retrouve ici deux philosophes importants qui ont détaillé tout ça. Je n'ai pas assez de compétences pour vous en dire beaucoup plus, mais il y a Locke qui est un philosophe du 17e, et puis juste après Montaigne, qui est donc du début du 18e, la première moitié du 18e siècle. Et dans cette séparation des pouvoirs, il y a quelque chose qui est très fondamental, à savoir que le fonctionnement de l'État, en particulier dans sa fonction législative et dans sa fonction exécutive, et troisièmement dans sa fonction judiciaire, doit se faire avec des instances qui sont des instances qui sont séparées. C'est-à-dire, il y a des organes qui sont distincts, qui jouissent d'une forme d'indépendance qui n'est pas tout à fait complète, il y a des interactions entre chaque, mais que on ne peut finalement juger que si les lois ont été faites par quelqu'un d'autre. On ne peut faire de loi que si l'application des lois est faite par quelqu'un d'autre. On ne peut décider je ne sais pas, des travaux, des comme ça, que si on est sous le couvert d'une loi et que ces lois sont élaborées encore. Voilà. Donc vous voyez, on retrouve le système judiciaire, le système législatif et le système exécutif qui sont séparés avec ce qu'on a appelé le quatrième pouvoir, à savoir le pouvoir de la presse qui est là juste pour... voilà, pour avoir une critique vive et intelligente et éventuellement constructive de tout ça.
Place à la santé.
Bonjour, chaque année, en France, on compte plus de 13 000 naissances de jumeaux, mais avoir deux enfants quand on n'en attendait qu'un seul pose pas mal de questions et notamment concernant leur développement. Fabrice Bach est psychologue spécialiste de la gémellité.
Les jumeaux vont tous passer par des étapes spécifiques du développement. Entre la naissance et 2 ans, c'est une étape dite de fusion gémellaire. Entre 2 ans, aux alentours de 6 ans, une étape dite de complémentarité. 6 ans, 11-12 ans, une première étape dite d'autonomie pour accéder à une seconde étape d'autonomie complète qui va donner ensuite 2 adultes complètement, a priori, autonomes. Maintenant, malheureusement, on a des enfants qui ne franchissent pas ces étapes, qui peuvent rester bloqués dans l'étape dite de fusion ou de complémentarité. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle les problématiques gémellaires.
C'était Fabrice Bach, psychologue et gémologue, extrait du site Place à la Santé. Et si la séparation paraît évidente dans certains cas, docteur Dominique Demichiel, on pense au cas des jumeaux où la séparation va être beaucoup plus difficile entre eux, avec cette, comme explique ce médecin, cette fusion à la naissance.
Oui, je pense que c'est surtout vrai pour les vrais jumeaux qui ont un patrimoine génétique commun. On sait maintenant que c'est pas tout à fait aussi vrai que ça, hein. Probablement, en particulier l'épigénétique nous montre que c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Mais en gros, voilà, il y a une grande proximité, et puis ils ont habité la même maison utérine pendant pas mal de temps.
Mais ça rejoint un petit peu les petites particules dont vous parliez en début d'émission,
ouais,
hein, les petites particules quantiques. Hein, et
ouais.
On a l'impression que c'est une espèce de télépathie après toute leur vie, quoi. Ouais.
Tout à fait, oui. Moi,
nous échappe en tout cas.
J'ai dans ma famille deux jumelles là qui sont des vraies jumelles toutes les deux, et voilà, qui habitent à une grande distance l'une de l'autre, mais elles se téléphonent souvent, je crois, et quand elles se téléphonent, parfois elles ont fait exactement le même repas à midi, quoi. Hein, vous voyez, donc il y a des petites choses comme ça qui sont tout à fait étonnantes.
Alors pour revenir sur la séparation, une première approche de ce mot nous tendrait à dire qu'il y a bien une rupture à un moment donné.
C'est-à-dire que toute séparation, on l'a vu dès le début de votre introduction, toute séparation, elle suppose qu'il y a un lien. Hein. Dans la pratique, on dit ils étaient mariés, ils se sont séparés, elle s'est séparée de son mari ou lui de sa femme, ou les deux amants vont se séparer, leur cœur est blessé. Voilà, où on parle de séparation avec la séparation d'avec son employeur, ça a été très bénéfique pour lui, par exemple, ou au contraire douloureux, ou leur première séparation, ou il en est à sa deuxième séparation, c'est vraiment difficile pour lui ou pour elle. Voilà. Donc, la séparation, ça suppose qu'il y a un lien. Et de temps en temps, c'est une séparation qui est choisie. Hein. Par exemple, deux époux qui ont décidé de ne plus vivre ensemble. Mais dans la séparation, il y a des composantes qui sont variables. Ces composantes, elles sont de nature de l'ordre d'une rupture effective, historique, qui engage donc une distance avant tout de type géographique, avec un éloignement physique, et aussi une composante émotionnelle, affective. Ça se passe pour des êtres humains, puisque vous évoquiez cette situation, ça se passe de manière très concrète, dans les corps, dans quelque chose qui se joue dans ce face-à-face. Mais la notion de séparation renvoie aussi à quelque chose qui n'est pas simplement un événement historique ou un événement affectif, mais aussi un processus. Alors ce processus, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est lent. Hein. On a bien vu dans l'exemple que vous donniez à propos des jumeaux de cet homme, de ce médecin, je suppose, enfin, ou psychologue, là, qui parlait de cette séparation entre les jumeaux, et il montrait bien que là, il ne s'agissait pas simplement d'une séparation de corps où il y en a un qui va chez la voisine et l'autre qui va chez la grand-mère, mais d'un processus d'autonomisation, d'un processus d'individuation qui se déploie avec une dynamique particulière, avec un tempo particulier. Et ce processus qui structure notre vie psychique, elle nous permet quelque chose de tout à fait essentiel. On l'a bien vu dans l'exemple que vous avez donné avec les jumeaux, à savoir une mise à distance vis-à-vis
de l'autre objet. Bonjour, chaque année, en France, on compte plus de 13 000 naissances de jumeaux. Dans le sens
général,
mais avoir deux enfants
objet,
quand on en attendait qu'un seul pose pas mal de questions, et notamment concernant leur développement.
Ça peut être
Fabrice Bach est psychologue
conjoint,
spécialiste
ça peut être son
de la
métier, ça peut être
les jumeaux vont tous passer par des étapes spécifiques du développement. Entre la naissance et deux ans,
c'est
une étape de fusion.
Ça peut être aussi une partie de soi, ça peut être une idée, ça peut être une idéologie, ça peut être une foi, ça peut être plein de choses. Donc vous voyez que dans l'idée de séparation, il faut bien penser à ces deux choses. La séparation qu'on connaît, ils sont séparés après 30 ans de vie commune.
A priori,
et puis la séparation dans le sens d'un processus qui se déploie à l'intérieur de soi-même et qui vise à une finalité qui peut être extraordinairement
vivante. Et si vous désirez retrouver l'ensemble de nos émissions sur les grossesses multiples, rendez-vous sur notre site internet placealasante.fr ou rejoignez notre page Facebook. À demain.
Et qui de temps en temps, par contre, peut être associé à quelque chose de très mortifère. C'est pas toujours vivant. Mais c'est un processus.
Alors, on sent bien ces deux forces qui sont en présence, le lien fusion qui va aller avec la séparation vers plus d'autonomie, d'indépendance.
Voilà, on peut reprendre en effet cette notion de force avec une force centrifuge et une force centripète. La force centrifuge, c'est celle qui rapproche, c'est celle qui unit, c'est celle qui permet un dynamisme de vie souvent extrêmement important, l'élaboration d'une histoire commune dans un couple. Voilà, au début, il y a peu de différenciation. Et au fond, ce partage-là, avec une grande intensité émotionnelle et l'impression évidemment fantasmatique et projective, mais néanmoins vécue avec une très grande charge émotionnelle qu'on ne fait qu'un, c'est cette forge centrifuge. Hein. L'histoire d'amour, c'est l'exemple le plus connu. C'est une force extrêmement puissante. C'est par exemple la force qui unit le maternel et l'enfant. Hein. Je dis bien le maternel parce que ce n'est pas vraiment la maman. Ça peut être le maternel dans le sens le plus large du terme. Dans l'amour passionnel, dans toute l'expérience mystique, par exemple, hein, si on fait référence ici à la radio, hein, qui est aussi quelque chose de l'ordre d'une non-différenciation. La force centripète, elle sépare, elle invite à l'autonomie, elle invite à la séparation, à l'indépendance, à la diffusion. Cette diffusion, elle est évidemment bien plus dans le cadre d'un processus, et il y a lieu, dans la question de la séparation, de penser ce processus et essayer de voir quel est son but.
Alors ce qui moi m'interpelle d'ores et déjà, c'est que ce processus entre fusion qui va vers plus d'autonomie, on le retrouve donc chez les êtres humains, chez le côté maternel, comme vous dites, mais on le retrouve aussi à tous les niveaux, au niveau des peuples qui au début étaient peut-être en clan et puis on est allé vers plus d'individualité. On le retrouve au niveau de la biologie, comme on le verra peut-être dans une autre émission. C'est vraiment un processus qui semble quelque chose d'essentiel, quoi, au cœur de la vie même.
Vous parlez de quoi ? De la séparation ou de la fusion du départ ?
Ben, de la fusion du départ, voilà. Qui va vers plus d'autonomie,
voilà,
c'est
voilà.
Ce processus-là.
Oui, ouais. Oui, tout à fait. Dans la fusion, il y a quelque chose qui est tout à fait important. D'abord, dans la fusion, un élément important, c'est qu'en général, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de tension, hein, puisque tout est mélangé. Et à l'intérieur de cette fusion, il y a une sorte de vie tout à fait idéalisée, une vie parfaite au fond, et de cette communauté, dans cette communauté, il y a une vraie puissance de vie, puisque dans une certaine mesure, il n'y a pas d'altérité, et cette puissance fusionnelle entre deux objets qui sont quand même un petit peu séparés puisqu'ils sont distincts, sinon il n'y a pas la question de la fusion. La fusion, c'est quand même une force qui rapproche. Il y a quelque chose qui est d'une très très grande valeur énergétique. Hein. Et on sait bien que la majorité des histoires de couple commencent comme ça, pas toutes, hein, parce que de temps en temps, il y a quelque chose qui se fait dans une vraie séparation, mais en particulier dans les amours des gens jeunes, on pourrait dire pendant l'adolescence ou le début de la vie adulte, il y a quelque chose qui est très, très puissant. On remarque d'ailleurs que il n'y a pas de pluriel, hein. Très, très souvent, il y a un « on », voilà, ben, on part à Paris ou on est bien ensemble, hein, c'est-à-dire le on qui est la troisième personne du singulier, vient désigner justement le fait que cette fusion se traduit par une sorte d'unité. Alors unité qui a sa réalité, hein, sa réalité concrète, physique, parce que les deux amoureux, on les voit toujours ensemble, ils sont toujours collés l'un à l'autre et c'est bien heureux. Une unité psychique aussi, avec parfois une grande proximité, une capacité d'intuition, de sensation, de sentiment, voilà. Mais qu'il n'y a pas de différence.
Hein. Voilà. Donc,
y a...
j'allais venir. Le problème arrive quand on a du mal à aller vers plus d'indépendance et vers plus d'autonomie. Quand la fusion devient un peu mortifère, on pourrait dire, en tout cas, étouffante.
En tout cas, qu'elle ne devient étouffante qu'à partir du moment où sa dynamique propre a pour effet de gommer les individus. Hein, puisqu'il n'y a que le « on » qui compte. Le « on », ce n'est pas la même chose qu'un « nous ». Un « nous », c'est un « je » plus un « je ». Hein. Et donc, dans cette altérité, le « je » de l'un n'est pas le « je » de l'autre, « je » J-E, bien évidemment. Et dans cette différence, on rencontre l'altérité, et il y en a un qui dit « j'ai envie de me coucher tôt » ou « j'ai envie de me coucher plus tard ». Voilà, et dans cette altérité, on passe du « on » au « nous » et c'est là que commence la séparation et éventuellement un vrai processus vivant, en l'occurrence, mais douloureux, en tout cas toujours une épreuve, une mise à l'épreuve de cette séparation.
Et cette tension qui est créée entre cette fusion et l'autonomie devient elle-même après source d'énergie pour avancer tout simplement dans la vie. À tous les niveaux qui soient.
Oui, ce que vous dites est juste. Je ferai une petite nuance, c'est-à-dire, c'est pas la séparation qui est en soi une dynamique de vie. C'est
la tension.
C'est la
tension entre les deux. Ouais.
Voilà.
Ouais,
et
ouais.
C'est ce que chacun va en faire.
Ouais.
Hein, si chacun est capable de tenir cette séparation, de lâcher quelque chose de cette fusion idéalisante et qui presque régressive, on pourrait dire. Et de tenir l'altérité, alors voilà, chacun va retrouver son autonomie, son autonomos, hein, c'est-à-dire avec une loi qui dépend de lui-même. Et bien évidemment, il ne va pas pour autant, enfin idéalement en tout cas, il ne va pas lâcher la dimension fusionnelle. C'est-à-dire, voilà, toute expérience d'amour, c'est toujours une part d'altération de soi-même et l'acceptation que le « on » est de la place, et donc on lâche toujours quelque chose de son autonomie au profit d'une hétéronomie, c'est-à-dire en donnant de la place à l'autre et en donnant de la valeur à son désir.